Yves Roche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Resilex. On va parler avec vous de votre actualité, puisque vous venez de fêter à la Bourse de Paris vos 130 ans de cotation, ce qui est important pour toute entreprise. Alors Resilex, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est Lex Metal Europe, donc une société donc issue de cette histoire de Metal Europe, qui aujourd'hui donc reste spécialiste du traitement des batteries. Vous en êtes où en 2012-2013, justement, sur l'activité de Resilex?
Alors, comme vous l'avez dit, Resilex est anciennement Metal Europe, mais surtout anciennement Penaroya, un empire minier français qui a pris naissance en 1881. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement un spécialiste du recyclage du plomb, du zinc, du plastique et des matières et des métaux spéciaux. Donc on recycle environ 11 millions de batteries par an et on est le deuxième producteur de plomb en Europe. Donc l'activité se poursuit, se porte bien sur ces secteurs-là. Sur le zinc, nous recyclons aussi les poussières d'acierie et d'autres déchets de zinc, les plastiques également et les métaux spéciaux où nous sommes moins dépendants du recyclage. Mais nous avons depuis 3 mois maintenant axé notre stratégie sur le recyclage sur ce secteur-là. Donc l'activité se poursuit et comme vous l'avez précisé, on a aussi l'héritage du passé, notamment un plan de continuation. Nous sommes en septième année du plan de continuation sans un seul défaut. À cela s'ajoutent des charges liées aux procédures prud'homales qui sont provisionnées dans nos comptes. Hein. Donc on a, je dirais, le risque est appréhendé sur les 3 prochaines années, date de la fin du plan de continuation qui sera en 2015.
Alors effectivement, vous l'avez souligné, c'est important. Vous avez payé, je dirais, vos échéances, ces échéances liées à l'histoire du groupe. Ça veut dire qu'opérationnellement, la société fonctionne bien et cette activité de recyclage est une activité pérenne.
Alors le cash flow opérationnel est positif dans l'ensemble de nos activités. Donc la stratégie que nous avons, c'est en effet de recycler encore plus de matière parce que nous avons de très beaux actifs. Et c'est aussi en interne d'améliorer encore nos process, puisque notamment sur les batteries, je parle beaucoup des batteries, on est ce que je dis price taker, c'est-à-dire qu'on subit le prix du marché entre l'offre et la demande, et comme en Europe on est en surcapacité, eh bien le prix des batteries est à un niveau très élevé, donc ce qu'on peut faire en interne, bon, on le fait le maximum, et après le deuxième axe de développement, c'est en effet développer, dupliquer ce modèle de savoir-faire du recyclage des batteries dans d'autres pays.
Justement, cette activité sur les batteries plomb, est-ce qu'elle est pérenne au sens où, effectivement, on se dit qu'il y en a peut-être de moins en moins? Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a toujours besoin de plomb dans l'industrie quelque part?
Aujourd'hui, 80% du plomb est utilisé dans les batteries, alors batteries automobiles et batteries industrielles. 45% du plomb provient des batteries de remplacement. Et beaucoup de personnes me posent la question sur les véhicules électriques. Donc en effet, les véhicules électriques utilisent des batteries au lithium, donc il n'y a pas de plomb. Mais on a encore beaucoup de véhicules, des moteurs thermiques, hein, donc qui utilisent une technologie plomb, et des moteurs hybrides avec des technologies stop and start qui toutes utilisent des technologies au plomb. Donc je pense qu'on aura encore de très longues années avec des moteurs qui vont démarrer avec des batteries au plomb. Et donc derrière, des batteries à recycler.
Donc l'enjeu aujourd'hui pour vous, c'est de se renforcer sur cette spécialité et voire d'élargir un peu ces activités de recyclage.
Au quotidien, c'est d'améliorer notre rentabilité sur les actifs que nous avons actuellement et c'est effectivement de se développer en dupliquant ce modèle dans des pays où il y a un fort gisement de matière à recycler et peu de capacité. Donc ça, c'est sur le plomb, mais on a aussi une stratégie sur le zinc à améliorer notre process. On a cette année investi dans notre usine allemande où on récupère beaucoup plus de zinc sur les matières que nous traitons de façon à valoriser le maximum de matières contenu dans nos matières. Quand on a un cours du zinc à 2 000 $ la tonne, eh bien si on a une tonne de plus, c'est tout de suite 2 000 $ de gagner dans le PNL.
Justement, ça c'est peut-être un enjeu important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a presque pas assez de recyclage. Vous pourriez dire que vous n'avez pas encore assez de matières premières à recycler.
Ah, il est évident que nous, on ne travaille pas en pleine capacité en Europe. Hein. Comme je disais, on est en surcapacité par rapport à l'offre de matières de batteries à traiter. C'est pour ça qu'on veut élargir notre sourcing, hein. Donc c'est traiter plus de matières puisqu'on a les capacités et on a l'avantage d'avoir une fonderie qui permet de traiter des matières recyclées et des matières premières. C'est-à-dire que quand on a un manque de matières à recycler, eh bien on traite plus de minerais de plomb, puisqu'il y a encore des minerais de plomb dans le monde. Et donc ça, ce qui permet d'ailleurs de produire une quantité non négligeable de plomb, puisqu'on va arriver cette année à environ 140 000 tonnes de plomb.
On parlait de ces marchés, de London Metal Stock Exchange. Comment justement évoluent les cours des matières premières? Est-ce qu'ils vous ont été favorables? Comment les...
Alors, il y a une dizaine d'années, les cours étaient relativement stables, autour de 500-600 $ la tonne. Et depuis 2005-2006, on a une très forte volatilité par des fondamentaux qui sont bons, parce que la demande de plomb augmente continuellement au niveau mondial. Hein, c'est un marché mondial. Hein, en prenant un exemple, la Chine, par exemple, la Chine utilise le plomb pour des batteries, non pas automobiles en premier lieu, mais pour des batteries des vélos électriques avant les véhicules. Donc il y a une demande continue de plomb, et ce qui fait que le plomb est bien soutenu. Bon, certes, il a des volatilités parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui rentrent sur le marché des métaux, donc au LME, donc que ce soit le plomb ou le zinc. On a beaucoup plus de volatilité que dans le passé, mais on est globalement orienté sur des matières premières élevées. Avec des cours élevés.
Là, justement, sur les perspectives, le scénario de 2013, on a vu hein, sur les matières premières en général qu'il y avait, on pensait qu'effectivement le scénario était tout simple, il y allait y avoir une hausse de ces matières premières, notamment en raison des politiques de quantitative easing de la Réserve fédérale américaine, et puis finalement on s'aperçoit que les investisseurs sont plus sensibles finalement à la faible croissance, et on n'a pas eu forcément ce qu'on attendait sur les matières premières.
Alors, bon, moi, quand je dis, ce n'est pas forcément 2013, mais je dirais à moyen-long terme, on va avoir des matières premières à niveau élevé, avec certainement, oui, comme vous le dites, hein, des à-coups à la baisse et à la hausse, mais c'est justement à nous d'avoir la capacité de répercuter notamment des baisses sur nos prix d'achat, des matières premières, en fait, des matières à recycler.
Alors, on parlait des perspectives, on parlait de ces échéances, on va dire, historiques hein, à régler. Donc, il y a encore 3 ans, je dirais, pour que le groupe soit vraiment, entre guillemets, débarrassé de cette histoire.
Alors, on a le plan de continuation, comme j'ai dit, qui a été déposé, que j'ai déposé en 2005 au tribunal de commerce de Paris, dont la dernière échéance est en 2015. C'est rajouté des charges liées aux procédures prud'homales, qui sont appréhendées dans notre bilan, soit en provision, soit en dette. Et on a une procédure liée à une tentative de comblement de passif des litigateurs judiciaires de Metal Europe Nord, qui ont été déboutés en première instance, qui ont été déboutés en appel dernièrement au mois de septembre, et ils ont dernièrement former un pouvoir en cassation. Nous, on va suivre de très près cette procédure parce que, comme je l'ai toujours dit, si on venait à perdre cette procédure, le risque est de 50 millions d'euros et ça pourrait remettre en cause, naturellement, notre plan de continuation. Donc, on reste prudent, naturellement, sur notre trésorerie. Mais on suit, comme je disais, on a, le 24 novembre dernier, payé notre 7e année du plan de continuation sans un seul défaut. Donc, c'est vrai qu'à la fin 2015, on aura une société qui aura zéro dette puisque, hormis le plan de continuation, on n'a pratiquement pas d'endettement bancaire à ce jour.
On pourrait dire que vous êtes un peu maso presque d'avoir repris cette société dans ces conditions-là, avec de telles échéances. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, convaincu personnellement, même si vous en faisiez partie, de dire il faut qu'elle continue et on a les capacités pour la faire continuer sur de nombreuses années?
Ah ben en 2003, quand on a eu des difficultés à la maison mère, j'ai en effet repérer à l'intérieur du groupe un savoir-faire et une motivation des salariés qui m'ont poussé à présenter ma candidature au conseil d'administration pour diriger le groupe, parce qu'il y avait une volonté de sortir et de cette ornière, de ces difficultés, et d'axer vraiment la stratégie sur le recyclage. Et je peux vous dire que quand je fais le tour des usines, il y a une envie, une motivation de tout le groupe pour vraiment aller de l'avant. Mais c'est vrai que je suis franc aussi avec mes équipes, je leur ai dit il y a des risques, hein, sachez-le qu'il y a des risques, mais on est là pour les gérer autant que faire se peut.
Alors, en conclusion, peut-être pour les investisseurs, ceux qui seraient tentés de suivre Silex en bourse, s'y intéresser, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'il va falloir suivre, justement, dans votre actualité?
Au niveau financier, ça va être le mois de mars. Hein, on va publier nos annuels 2012. Hein, et ensuite, on va avoir l'année 2013 où on va faire un point aussi sur la procédure du pourvoi en cassation, hein, si on a une évolution par rapport à ça. Et ensuite, c'est vrai que c'est, comme je disais, hein, la continuité de l'amélioration de nos process, et en espérant que, naturellement, sur les résultats, on ait le fruit de tous nos efforts.
Bien, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous, Yves Roche, donc PDG de Rosilex, qui fêtait aujourd'hui ses 130 ans de cotation.
Merci.